Eh bien, bonjour, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde en direct et dans les studios avec mon invité. Je remercie tout de suite à la technique Virginie. Je suis content de la voir. Ça fait un moment que je l'avais vue, Virginie, quand même. Ninive Lame. Alors, n'oubliez pas d'aller visiter d'ailleurs Ninive Lame sur les réseaux, sur les plateformes. C'est une extraordinaire chanteuse et donc elle est à découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà. Je crois personne parce qu'ils sont à l'étranger, ils sont en vadrouille, nos bénévoles, que ce soit Patrice, que ce soit Sylvie, je ne vous dirai pas où, mais ils ne sont pas parmi nous. Donc, vous n'aurez d'autre choix, chers auditeurs, pour entrer en contact avec nous. Et Dieu sait comme j'aime pouvoir échanger avec les auditeurs, en particulier. Quoique, j'étais mercredi dans le libre journal de la Résistance française et on a eu pléthore de questions un mercredi soir après 19h30. Qui nous dit qu'après 19h30, il n'y a personne sur Radio Courtoisie? Vous êtes encore plus nombreux qu'avant. Et donc, je suis heureux de pouvoir répondre à vos questions. De même, le samedi matin, heure incontournable, à partir de 10h30, bien sûr. Comme vient de vous le dire Virginie, vous aurez la chance d'avoir Mike Borowski dans son libre journal des controverses. Et donc, le libre journal de géopolitique profonde, à partir de 9h. Donc, vous pourrez poser vos questions, chers auditeurs, par courriel électronique exclusivement. N'essayez pas, ne vous acharnez pas sur le standard. Je vous assure, je doute fort que quiconque vous réponde. Par contre, par courriel, eh bien, nous pourrons, avec mon invité du jour, vous échanger avec vous en deuxième partie, souvent d'émission. Donc, vous envoyez les questions tout de suite, tout de suite. On aura aussi Michel Dumas, j'espère. Il est toujours présent. Il est pas là le mercredi. Un mercredi sur deux, Michel. Vous pouvez venir aussi nous régaler de vos quatrains. Donc là, c'est tous les samedis. Et donc, on vous attend vers 9h45 à peu près. Je pense que c'est l'heure où tombera le quatrain de notre collaborateur de ce libre journal de géopolitique profonde. Voilà, donc, et puis tous, autant que vous êtes, ça faisait un moment que je n'étais pas venu dans le studio. Et dorénavant, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Le seul inconvénient, c'est que je n'aurai plus, en tout cas le samedi, ou très rarement, mon assistante, qui me fera mentir quand je vous disais, Lara Stam, que je remercie d'être présente comme tous les samedis, et vous étiez quelques-uns à dire « Non, il n'est pas là tous les samedis », et bien maintenant, elle ne sera quasiment pratiquement plus là le samedi, parce qu'elle est elle-même au boulot de matinale, qui, sur géopolitique profonde, justement, ont lieu actuellement entre du lundi jusqu'au samedi matin, samedi entre 7h et 10h comme tous les jours, et bientôt dimanche. Non, c'est pas compliqué, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, c'est les stakhanovistes de géopolitique profonde jusque sur Radio Courtoisie, et on est heureux de... Et je suis heureux d'être dans le studio aujourd'hui, j'y serai beaucoup plus souvent dorénavant, ce qui me permettra aussi, en plus de voir, Virginie, de voir nos chers bénévoles, de pouvoir ouvrir vos lettres, parce qu'elles sont nombreuses, j'ai pu les découvrir. Je suis désolé pour ceux qui disent « Mais on vous a écrit il y a 3 mois et vous n'avez toujours pas répondu. » Ben oui, mais pour une raison simple, c'est que je me suis absenté un moment. Je faisais ces émissions en direct, mais je ne les faisais pas directement dans le studio. Maintenant, c'est le cas. Voilà. Donc, que ce soit Annie-Paul de Prinsac, que ce soit Franck Moliex, je vais, et les autres, je croule sous les courriers, même des recommandés, c'est dire, je répondrai bien sûr à vos questions et à vos remarques, et s'il y a nécessité, je vous répondrai par écrit, n'hésitez pas. J'ai vu que, par exemple, Annie-Paul de Prinsac, j'ai son courriel. Donc, je vais pouvoir lui répondre par courriel électronique. Voilà, c'est par exemple. Voilà. Donc, ce matin, dans ce libre journal de géopolitique profonde, mon invité du jour, avec qui je vais passer en revue une petite courte revue de presse, et puis ensuite, le thème principal que Virginie vous a énoncé, c'est-à-dire, USA, Israël, Iran, la guerre jusqu'où? Ça, c'est pour le thème principal, Proche et Moyen-Orient. J'avoue que je n'innove pas spécialement, mais que voulez-vous? Cela fait maintenant des semaines et des semaines, au risque de l'enlisement qui fait que les nerfs de Donald Trump sont à rude épreuve. Et bien, mon invité, lui, a une autre façon d'en parler, de ce Donald Trump. Et je suis heureux de le retrouver ce matin. Eh bien, c'est Laurent Arthur Duplessis. Bonjour, mon cher Laurent.
Bonjour, Nicolas.
Que les auditeurs, en tout cas ceux qui sont très fidèles à notre radio, vous ont entendu hier midi dans votre propre libre journal,
oui,
je crois.
Oui, où je recevais Yves Pozzo di Borgo.
L'ancien sénateur.
Ancien sénateur, ancien vice-président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Donc un grand expert de politique internationale.
Grand ami du franco-russe, de ce qui est de la,
oui,
Russie. De,
tout à fait.
Sa famille, de toute façon.
Et d'ailleurs, au fur et à mesure que se sont affirmées ces prises de position non conventionnelles, non atlantistes, oui, au sujet du conflit ukraino-russe, il a été progressivement ostracisé par les médias du système, évidemment. Le processus est bien connu.
Oui.
Et les médias dits alternatifs, Radio Courtoisie, GPTV, etc., assument magnifiquement la relève, si on peut dire. Enfin, c'est pas une relève, parce qu'ils ne distillent pas les mêmes inepties que les médias du système.
Ah, on traite d'informations qui sont parfois similaires, mais c'est vrai que c'est sur un autre ton et une autre analyse, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit sur le conflit en Ukraine, que ce soit sur l'Iran. Il est vrai que nous avons notre propre son de cloche, comme d'autres médias alternatifs. Nous ne sommes pas les seuls, que ce soit sur, en effet, l'Est de l'Europe, ou que ce soit sur... sur le Proche et Moyen-Orient, sachant que, évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord, et d'ailleurs, nous essayons de laisser un peu de diversité, je dirais, s'exprimer. On n'est pas là pour faire la même chose que les médias subventionnés, que les médias larbins, que les médias dits de grand chemin. Je ne dirais pas « mainstream », parce que ça m'enverrait directement vers le cochonnet, mais en tout cas, appelons-les les médias de grand chemin, qui me semble être une bonne expression, pour parler justement de ces médias et de leur unanimisme. C'est ça qui est le plus insupportable. C'est même pas tant qu'ils disent ce qu'ils disent, ils ont bien le droit de le dire s'ils le pensent, et si c'est approfondi. C'est qu'ils disent tous la même chose. Donc quelque part, on se dit qu'il n'y a aucune sincérité. Que tout est dans les salles de rédaction. C'est la chance de Radio Courtoisie. Vous n'avez que Radio Courtoisie. Les auditeurs, j'espère qu'ils en ont conscience, la richesse de cette radio. Nous sommes des patrons d'émission, vous comme moi. Nous sommes, et ce, c'est voulu depuis les fondateurs, je dirais, que ce soit Ferré, que ce soit de Beketch, de cette radio, de vouloir que le patron d'émission assume sa responsabilité de patron d'émission. Il n'y a pas de comité de rédaction, en tout cas en tant que tel. C'est quelque chose qui est hors de l'esprit de Radio Courtoisie. Tant que nous sommes dans l'esprit de Radio Courtoisie, tant que nous sommes dans le cadre de la loi, bien sûr, et que nous avons cette éthique de la responsabilité, et pas seulement l'éthique de la conviction, pour paraphraser Weber. Mais quand nous avons cette éthique, eh bien, nous pouvons, dans le cadre d'une responsabilité, exprimer notre opinion, et nous ne sommes pas tous d'accord, c'est vrai, sur l'Iran, nous ne sommes pas tous d'accord sur l'Ukraine, mais nous nous respectons, enfin, j'espère.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été la géniale idée de Jean Ferré, le créateur de Radio Courtoisie, cette organisation statutaire qui institue justement le concept de patron d'émission parfaitement indépendant et non soumis à une rédaction en chef. Il n'y a pas de rédaction en chef. Et... simplement assujetti à l'obligation de respecter les règles légales, parfaitement libre de conduire ses émissions, de choisir sa ligne éditoriale et ses invités.
C'est ça.
C'est tout à fait génial.
Ah,
ça
oui.
Marche magnifiquement bien depuis 1987.
C'est ça.
J'ai été là...
des radios libres.
Oui, j'étais là comme invité en 87. Dans les...
Ah bon ?
Oui, dans les toutes premières émissions. J'étais au Figaro Magazine à l'époque.
Et qui vous avez invité ?
Eh bien, un certain Pierre Laforêt, qui a disparu depuis, qui était journaliste au Figaro Magazine.
Et qui avait une émission.
Qui avait une émission. Et le Figaro Magazine, en fait, a été assez mêlé à cette aventure,
ouais.
Puisque Jean Ferré avait été journaliste au Figaro Magazine.
D'accord.
Et il avait une chronique. Et puis, c'était un ami de longue date de notre directeur de publication.
Powels.
Louis Powels.
Ouais.
Il se trouve que Jean Ferré se sentait un peu frustré au Figaro Magazine parce que trouvait que son ami Louis Powels ne lui donnait pas les espaces.
Ah, bah là, il aurait dit, vous aviez un comité de rédaction, là, pour le coup.
Et là, il y a un comité de rédaction. Et finalement, ça a été une chance.
Oui.
Parce que, du coup, finalement, Jean Ferré a tourné ses ambitions et son énergie vers la radio, et donc la création de Radio Courtoisie. Et en fait, on voit comment le destin fourbit ses armes, et comment le destin trouve des aiguillages tout à fait inattendus, parce que si Louis Powels avait véritablement beaucoup plus employé le talent et l'énergie de Jean Ferré au Figaro Magazine, nous n'aurions peut-être pas eu Radio Courtoisie.
Absolument. Eh bien, nous avons Radio Courtoisie, et c'est notre rôle maintenant de continuer l'œuvre. Ce témoignage et en même temps eh bien, cette belle œuvre qui fait que Radio Courtoisie est, à mon avis, et de loin la dernière radio libre de la bande FM, et je dirais des radios en général, il n'y a pas que la bande FM, et elle est incomparable
radio. Je crois même que Radio Courtoisie, sur les ondes hertziennes, là où elle est présente dans les zones géographiques,
oui,
françaises, c'est-à-dire principalement Paris, région parisienne, et puis cinq
Nord-Ouest, voilà. Ouais.
Mais en Paris, région parisienne, d'après ce que j'ai compris des derniers médiamétries, eh bien, Radio Courtoisie talonne Europa en matière de performance sur le tien. C'est vous dire que si Radio Courtoisie avait toutes les longueurs d'onde de
l'Hexagone,
couvrait tout l'Hexagone, vraiment, Radio Courtoisie serait tout à fait au niveau des grandes radios généralistes, en fait.
Eh bien, écoutez, je ne connaissais pas ces résultats, mais en tout cas, il nous donne du baume au cœur et nous donne envie de continuer. Ça, c'est évident. Alors, je vous propose, mon cher Laurent, maintenant, de débuter par une petite revue de presse que normalement je fais avec Lara, et puis maintenant que j'en suis orphelin, je vais la faire avec vous, je vais la faire avec mes invités, je vais vous enrôler dans la revue de presse, tiens. Sinon, si les invités ne veulent pas, je le ferai avec Virginie à l'avenir, tiens. Allez hop, on fera une revue de presse ensemble. Virginie a l'air de me dire si elle veut. Il y a peut-être une petite musique, c'est ça, un petit générique de la revue de presse. Allons-y, ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Voilà, formidable. Extraordinaire, merci Virginie. Virginie qui avait préparé spécialement lorsque nous avions, alors c'était au tout début de ce livre journal, nous avions eu à une époque le livre journal de la gastronomie pendant longtemps, le samedi matin, c'est comme ça qu'on avait commencé à développer des émissions en direct le samedi matin, c'était avec à l'époque Babette de Rosière, et Virginie avait fait un travail absolument formidable de bruitage, qui faisait croire aux auditeurs, chers auditeurs, vous étiez nombreux à croire que nous faisions réellement la cuisine dans le studio, alors que vous savez, chers auditeurs, qu'à part un petit peu d'eau dans un bro, ça fait partie de ces choses, nous sommes interdits, alors là, évidemment, manger dans le studio, ça c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, mais voilà, grâce à ce bruitage, on donnait cette impression, et puis ensuite, au début de ce livre journal, c'est un petit peu un retour aujourd'hui dans le studio, vous me pardonnerez donc cette nostalgie, chers auditeurs, eh bien nous avions pour chaque rubrique une musique spécifique. Et c'est vrai qu'on ne le fait plus aujourd'hui, mais nous allons, en tout cas, nous l'avons fait un petit peu au début de cette émission. Merci encore, Virginie. Laurent, premier thème que j'aimerais aborder avec vous, on va peut-être parler un peu de Macron. Allez, tant qu'on ne parle pas de sa femme, tant qu'on ne parle pas de Brigitte, on va parler de Manu, d'Emmanuel, qui nous refait le coup de 2017, de son discours de l'Acropole à Athènes en septembre 2017. Il avait potassé ses fiches de Sciences Po et de l'ENA. Il était tout jeune président, on disait, il est extraordinaire, c'est le président jeune, disrupteur, il n'avait pas 40 ans. Et puis, je pense que les gens ont eu la possibilité de changer d'avis, de se retourner depuis. Mais en tout cas, il ne m'avait pas beaucoup impressionné ce discours sur la souveraineté européenne. En 2017, à l'Acropole, en Grèce, finalement, il montrait déjà le l'otanien, l'atlantiste, l'américain. C'est Macron, l'américain, qui recommence tout en ayant cette expérience de 9 ans de pouvoir où il a pu tester deux fois entre 2017 et 2020 et depuis début 2025, Donald Trump comme président de la République. Et ça, président de la République, président des États-Unis d'Amérique. Et en tant que président des États-Unis d'Amérique, voilà, c'est compliqué. Hein, c'est pas l'État profond, c'est pas Biden, c'est vrai, c'est pas ceux qui sont les donneurs d'ordre habituels de cette clique mondialiste auquel appartient Emmanuel Macron. Donc il commence son discours en disant c'est un moment unique, nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'Europe, et d'ailleurs c'est très bon, dit-il, pour la souveraineté européenne, où un président américain, un président russe et un président chinois sont farouchement opposés aux Européens. Bon, j'ai envie de lui dire déjà à Macron, parce que là déjà ça me fait monter la moutarde au nez et les petits bourdons, lui rappeler que des trois présidents, il y en a un, il fait partie de l'Europe. Et que ça lui plaise ou non à Macron. Que le président Xi, le chinois, que Trump, l'américain, n'aime pas ou soit farouchement opposé aux Européens, passe encore. Vous savez, il n'a peut-être pas complètement tort. Quoique, hein, je pense que ils aimeraient surtout que nous assumions notre souveraineté. Alors peut-être pas des Européens, mais des pays qui composent cette Union européenne. Mais je vous ferai remarquer, Emmanuel Macron, que la Russie est pour partie. Membre de l'Europe est une partie, sa façade occidentale, Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron, ça vous dit quelque chose? Vous avez dû quand même l'étudier à Sciences Po, à l'ENA, vous savez, cette fenêtre sur l'Occident tout de même. Qu'est-ce que vous inspire ce discours de Macron qui essaie, comme d'habitude, de profiter finalement du côté un peu erratique de la politique américaine vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'OTAN. L'OTAN est au bord de l'implosion, semble-t-il, pour refourguer ce concept, à mon avis, totalement aléatoire de souveraineté européenne.
Oui, alors, c'est son grand fantasme. Il se voudrait le Washington européen, c'est-à-dire que, comme George Washington avait été l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, il voudrait être, lui, le premier véritable président de l'Europe.
Et pourtant, il a dit qu'il ne ferait plus de politique une fois quitté l'Élysée. Quel gros menteur. Ah, c'est... Il ne pense qu'à ça. Il ne fait que sa campagne actuellement pour remplacer von der Leyen, ça se voit.
C'est exactement ça. Il ne vit que pour ça maintenant.
Oui. Et la France est un marchepied.
Voilà.
Aucun problème avec ce genre d'individu. Hein. Les États, les nations, les peuples peuvent être des marchepieds à leurs ambitions dévorantes et personnelles.
C'est ça. Et alors, il est clair que Macron chevauche... la guerre ou l'idée de la guerre parce que il estime qu'il va pouvoir se refaire peut-être même une santé présidentielle en France, et peut-être pourra-t-il prolonger son mandat présidentiel en instituant l'article 16 et en reculant s'inédier la prochaine élection présidentielle, parce que il a constamment un discours belliqueux vis-à-vis de la Russie, et manifestement, ce discours belliqueux s'inscrit d'ailleurs dans une rhétorique otanienne vis-à-vis de la Russie qui est extrêmement agressive. Et on voit bien que Macron cherche un chemin, je dirais, est confronté à une sorte de dilemme. Vais-je me prolonger à la tête de l'État français par la guerre, ou vais-je devenir un grand président européen par la guerre ? Le dénominateur commun des deux options étant la guerre. Alors, on va me dire, oui, déjà, pour le Covid, il était en guerre, c'est vrai.
Alors, ça là, il l'a dit 6 fois, nous sommes en guerre, 6 fois, hein, pas 5, pas 7, 6 fois.
Le personnage est extrêmement frétillant à l'idée de guerre,
oui.
Mais en même temps, il semblerait qu'il soit totalement dépourvu de courage physique.
Ah, lui, personnellement, oui, oui, bien sûr. Bon, il a quelques images photoshopées où on le voit taper contre un punching ball. Mais c'est vrai que son courage physique ne fait pas partie de ses qualités les plus éminentes.
Il faut préciser ce qu'a été ce Photoshop. On est obligé de prendre le terme technique.
Oui, là, on est bien obligé.
C'est qu'il a gonflé un bras assez éthique, assez indigent. Et il a transformé un biceps discret en une sorte de turgescence musculaire digne de Mike Tyson.
Ah oui, c'est ça, ou Rambo.
C'est
voilà.
Grotesque. Ouais. Mais c'est grotesque. Il est épais comme un bâton de sucette. Et il n'est absolument pas fait pour les sports de combat. Il n'est surtout pas pour la boxe.
Il a déjà du mal avec le ballon au pied, vous voyez, je me rattrape de Photoshop. Où il joue, il aime bien jouer. D'ailleurs, en général, Brigitte l'accompagne hein, au bord du terrain.
Ah oui. mais il y a là un narcissisme adolescent,
ah oui.
Pour ne pas dire infantile, mm-hmm. qui est quand même assez affligeant. Et ce qui est terrifiant actuellement, de manière générale, dans l'ambiance des médias du système en France et en Europe, c'est cette espèce d'hystérie belliqueuse, d'hystérie belliciste.
Oui.
Cette espèce de euphorie qui a souvent sur les plateaux de télévision où on discute de l'assassinat d'une série de dirigeants iraniens ou de la... destruction de telle ou telle division russe, etc., avec des sourires ravis.
Une désinvolture, voire même, en effet, une satisfaction,
qui ne se cache plus, une sorte de béatitude. Mais tous ces gens-là, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la guerre. Ils ne l'ont pas vécu.
Non.
Ils ne savent pas la souffrance, les drames et que ça représente... pour les combattants, pour leurs familles. Y a une chose qui me frappe, c'est qu'on montre jamais, quasiment jamais, très peu, les dégâts causés par la guerre sur les combattants.
Les morts, les blessés, les amputés.
Les amputés, les gars totalement défigurés.
Brûlés.
Les infirmités, par exemple, des gens qui, par un certain type de blessure, deviennent incontinents pour le reste de leur vie. Des jeunes gars précédemment en pleine forme qui deviennent incontinents et vivent avec des couches pour le reste de leur vie. Et je ne parle pas non plus alors des blessures psychologiques, c'est-à-dire les chocs post-traumatiques qui font que certains gars sont complètement traumatisés.
Le peuple ukrainien, c'est un peuple qui est broyé aujourd'hui.
Oui, totalement broyé. La masse de souffrance humaine qui s'abat sur ce peuple est phénoménale.
Ouais.
Et ce malheureux peuple ukrainien est le jouet des manipulations américano-otaniennes. Il est le jouet d'intérêts qui ne le concernent absolument pas. Brzezinski déjà dans...
Et puis ses propres oligarques aussi.
Et
de Zelensky et de tous ces gens qui s'enrichissent. On a vu que l'homme le plus riche d'Ukraine vient d'acheter l'appartement le plus cher au monde. C'est à Monaco, plus de 500 millions d'euros. Quelqu'un qui a fait sa fortune dans l'électricité, dont on sait que justement l'Union Européenne donne des milliards, la France donne des milliards pour justement le secteur énergétique, le secteur électrique ukrainien, dont on voit que ça finit dans les poches de ces corrompus d'oligarques ukrainiens.
Et d'ailleurs, hier, Yves Pozzo di Borgo, que je recevais à mon libre journal La Crise, sur l'antenne de Radio Courtoisie, disait que il est impressionnant de constater le nombre de voitures de luxe qui roulent à Kiev.
C'est un des, c'est, entre autres, ils sont spécialisés dans les Bentley. C'est un des pays qui achète le plus de Bentley, voitures de luxe il en est. Et puis il n'y a pas que des Bentley, il y a toutes sortes de voitures de luxe, de la Ferrari, la Porsche, la Rolls. Et puis, il faut le dire aussi, ils aiment bien la Côte d'Azur, les Ukrainiens. Ils ont remplacé les Russes, hein, puisque les Russes sont, on sait qu'on a saisi jusqu'au yacht des Russes. Mais par contre, les Ukrainiens, ils sont les bienvenus et ils vivent gras. Mais avec un luxe qui devrait faire honte tant le souffre sur la ligne de front, dans les tranchées, ces Ukrainiens.
Mais c'est fascinant de voir le décalage qu'il y a entre cette oligarchie ukrainienne très corrompue, richissime, et encore plus riche avec la guerre, parce que les flux financiers gigantesques venus d'Occident, une bonne partie finit sur leur compte bancaire en Suisse, à Singapour, etc.
Et puis il y a peut-être des petites rétrocommissions.
Énormément de rétrocommissions.
Voilà, l'Europe récupère ou nous récupérons aussi. Hein, ça s'est perdu pour personne. Hein.
C'est ça. Et pendant que ce luxe, qui ne se cache même pas en Ukraine, en fait, et ailleurs, pendant que ce luxe-là se déploie, eh bien, des pauvres types dans les tranchées sont là depuis plusieurs années. Ils sont dans des conditions de vie de stress épouvantables avec la guerre des drones, qui fait que la vie des tranchées aujourd'hui est bien pire que la vie des tranchées en 14-18. Il faut savoir qu'en 14-18, le poilu et son homologue allemand, ou anglais, etc., avaient des moments de répit très importants. Parce que entre deux salves d'artillerie ou deux assauts de fantassins, c'était calme. Il n'y avait pas à stresser, il n'y avait pas à regarder constamment le ciel pour savoir si la mort allait venir du ciel. L'aviation était quasiment inexistante, elle balbutiait, elle était en train de naître, l'aviation de guerre. Elle était surtout consacrée à la reconnaissance vers 17-18 et à un peu de bombardement très artisanal. Hein, on lâchait une bombe comme ça. Bon. Tandis qu'aujourd'hui, avec les drones, mais c'est le cauchemar permanent, parce que à chaque instant, il faut surveiller le ciel, tendre l'oreille, savoir si un drone en approche et trouver un abri, se cacher. Il paraît même que les fantassins ukrainiens prennent un médicament qui s'appelle l'imodium.
Ouais.
L'imodium, c'est un médicament qui, normalement, est un antidiarrhéique. Mais qui, pour quelqu'un qui ne souffre pas de diarrhée, si la personne prend ce médicament, c'est la constipation assurée. Et pourquoi ? Eh bien parce que il faut sortir de la casemate pour aller faire ses besoins, et on risque sa vie. Donc, ce qui est le plus tranquillisant pour le fantassin, c'est de sortir le moins souvent de la casemate.
C'est terrible.
Donc, on prend de l'imodium parce que pendant 3 ou 4 jours, ben comme ça, on ne fait pas ses besoins. Et on ne risque pas d'être confronté au tir des drones russes. Et vice-versa, d'ailleurs, de l'autre côté.
Tant de choses qu'on ne nous raconte pas, voilà. Et en effet, nos militaires de plateau, nos journalistes de plateau, d'opérette, en effet, ont ce sourire béat. On va peut-être avancer un petit peu, Laurent. Merci en tout cas de ce témoignage. Pour terminer avec Macron et son nouveau discours là en Grèce sur la souveraineté européenne, il dit il y a désormais un doute sur l'article 5. Donc l'article 5 de l'OTAN, bien sûr, c'est cet engagement mutuel à venir défendre en cas d'agression par un tiers. Ce qui affaiblit, dit-il, de facto l'alliance, alors qu'il s'agit de trouver la bonne alliance stratégique. Donc cette volonté de réassurance entre membres de l'Union européenne. On a pu voir dernièrement, même si on en parle très très peu dans nos médias, j'alerte vraiment nos auditeurs et j'aimerais que cette information soit portée parce qu'elle est très inquiétante. Macron était en début de semaine en Pologne. Il a vu Tusk à cette occasion, Donald Tusk. Ou Tusk, prononcez-le comme vous le souhaitez, et ils ont convenu d'essais ou de manœuvres nucléaires en dehors de l'OTAN, bien sur la Baltique, avec des avions, avec la composante aérienne nucléaire française, qui aura lieu, on ne sait pas exactement quand, mais bientôt. Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi de façon très virulente en disant qu'ils étaient inquiets, qu'ils se méfiaient énormément de ces manœuvres, qui en plus se font hors OTAN, ce qui est ennuyeux, parce que vous savez bien, des manœuvres de l'OTAN face à ceux qui sont en face, ex-Union soviétique, Russie, ils ont des codes en commun. Ils savent très bien que si une cible, vous l'engagez, vous savez, il y a un réseau de communication, il y a des canaux de communication qui fait qu'il n'y a pas de risque d'une erreur d'appréciation, d'un accident. Là, on va envoyer des rafales qui vont être chargées de missiles nucléaires qui ne resteront pas sur place, mais qui seront chargés sur les avions. Ils seront sur les hauteurs de la Baltique. Ils pourront engager des cibles en Russie, engager bien sûr. Imaginez que ce soit mal interprété et que ce soit l'Armageddon. Imaginez cela. Ces gens sont fous furieux. Et je le dis sincèrement, je pense Macron dangereux.
Oui, et là on voit bien, il cherche le salut par la guerre, le salut politique par la guerre. Et en quelque sorte, ça c'est une provocation, ces grandes manœuvres-là, c'est une provocation extrêmement terrible vis-à-vis des Russes.
C'est la dissuasion nucléaire française en plus, on essaie de prendre la place finalement de l'OTAN.
Oui.
On est dans ce cadre de la souveraineté européenne avec un parapluie nucléaire français. On sent cette volonté dans ce marchepied pour justement la présidence de l'Europe de la part de Macron de donner cette dissuasion nucléaire, ces armes nucléaires à l'Europe. Et ça la va jusque-là, jusqu'à la Pologne, dont on sait qu'elle a une histoire, contrairement à la France où il y a une très belle histoire du dialogue, de la relation franco-russe. Autant dire le contraire. C'est vrai qu'entre les Polonais et les Russes, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Mais de quoi nous mêlons-nous encore une fois?
Et alors, c'est très dangereux, ça, effectivement, parce que les Polonais, on sait qu'ils ont le sang chaud. Pardon. On sait qu'ils sont, à l'occasion, très, très vifs sur la détente. Oui. Évidemment, leur passé belliqueux avec les Russes peut largement expliquer ça. Sachant que la Pologne est une grande plaine ouverte à tous les vents et qui a été victime d'invasions fréquentes et nombreuses des deux côtés, de l'ouest et de l'est. Alors effectivement, les Polonais étant ce qu'ils sont, il serait extrêmement important que la politique étrangère française ne s'imbrique pas avec cette Pologne turbulente comme Macron essaye de l'imbriquer. Parce qu'en effet, Macron, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire là? C'est en quelque sorte de la prolifération nucléaire. Ça va totalement à l'encontre de la lettre et de l'esprit du traité de non-prolifération nucléaire. Il faudrait s'en tenir à la doctrine du général de Gaulle, à savoir les intérêts vitaux de la France, en laissant certes un flou artistique sur ce que sont les intérêts vitaux de la France, bien sûr, sachant que le flou artistique fait partie de la dissuasion, des règles de la dissuasion, mais sans s'emballer, comme il le fait, dans une collusion nucléaire, pourrait-on dire, avec la Pologne, comme vous dites, Nicolas, c'est une pure folie. Nous risquons d'être engagés dans un conflit nucléaire avec les Russes à partir de foyers d'agitation dans les pays baltes, par exemple.
Et, vous parliez des drones, justement, Laurent, mais il se dit qu'actuellement, les pays baltes, peut-être la Pologne, laissent libres d'accès les airs des pays baltes ou de la Pologne pour que les drones ukrainiens fassent un contournement et aillent frapper très loin de l'Ukraine dans la profondeur du territoire russe. Et il est certain que, vu les drones et les frappes de drones, ils empruntent, et c'est fait en collaboration avec les pays baltes et avec la Pologne, et donc c'est extrêmement dangereux, sans parler de tous ces pays qui se vendent, dont l'Allemagne, qui ont subi les conséquences d'ailleurs en matière d'hydrocarbures. Mais l'Allemagne se vantait, encore Merz, cette semaine toujours, de l'ensemble de cette industrie européenne, des drones entre autres, et pas seulement, des armes en général, au service de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on se vante de donner, on ne les vend même pas de toute façon, mais avec quel argent ils les achèteraient, de donner des armes, de livrer des armes en grand nombre, dont énormément de drones, aux Ukrainiens, eh bien, pour aller tuer des Russes. Et si demain, eh bien, ces usines en Europe qui servent de base arrière au complexe militaro-industriel de la guerre ukrainienne contre la Russie sont frappées. Imaginez un Oreshnik sur une de ces industries. Qu'est-ce qui se passerait?
Et alors, c'est là où on voit justement les effets d'escalade liés à la co-belligérance, les effets possibles d'escalade liés à la co-belligérance. Parce que, effectivement, ces drones ukrainiens qui passent par le ciel,
l'espace aérien, oui.
L'espace aérien des pays baltes pour aller plus en profondeur, oui, en Russie, oui, transforme les pays baltes en co-belligérants.
Ah, oui.
Et je dirais que même s'il peut y avoir des discussions de juristes sur les contours de la notion de co-belligérance, une notion de co-belligérance qui n'est pas vraiment définie par le droit positif, en fait. Mais là, c'en est indiscutablement de la co-belligérance de la part des États baltes. Et voilà que Macron essaye de lier au maximum le sort de la France à celui des États baltes. Alors, on peut avoir de la sympathie pour les Baltes, ce sont des gens parfaitement estimables, mais moins pour des gouvernements baltes, qui, eux, sont animés par ce climat de folie.
Et de russophobie majeure, jusqu'à, par exemple, vouloir interdire l'usage de la langue russe, alors qu'ils ont de fortes minorités, hein, la Lituanie, l'Estonie, avec des minorités russophones, et des brimades en tout genre, des persécutions ont lieu actuellement dans les Pays-Baltes contre ces minorités.
Oui, parce que les citoyens russes des Pays-Baltes sont considérés en fait comme des citoyens de seconde zone.
Des sous-citoyens, oui.
Des sous-citoyens. Il est vrai qu'ils sont l'objet d'un certain mépris de la part des Baltes, je dirais de souche, pourrait-on dire. Mm-hmm. Ils sont considérés comme alcooliques, paresseux, etc. Et effectivement, ils n'ont pas accès aux mêmes facilités de la vie politique et administrative balte que les Baltes de souche. Alors là, il y a des ferments de guerre qui sont extrêmement dangereux. Et Macron, en fait, sait très bien ce qu'il fait. Il veut absolument solidariser le plus possible la France avec ces pays d'Europe de l'Est, de manière à pouvoir avoir justement le maximum de chances d'entrer dans la guerre. Que la France entre en guerre avec la Russie, que l'Europe entre en guerre avec la Russie et que l'OTAN entre en guerre avec la Russie. Je trouve que cette course à la guerre est la marque d'une inconscience absolument tragique. Parce que les grandes guerres arrivent de cette façon-là. On peut penser à la déclaration de guerre en 1914 de Vienne contre Belgrade, contre la Serbie. Lorsque les dirigeants autrichiens déclarent la guerre à la Serbie après un mois de tractations suite à l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, et parce que les Serbes n'acceptaient pas qu'une commission d'enquête autrichienne vienne enquêter sur le territoire serbe. Et finalement, au bout d'un mois, Vienne déclare la guerre à la Serbie. Cela semblait périphérique, anecdotique presque, et bien loin des grands enjeux stratégiques franco-allemands notamment. Eh bien, voilà que la Russie mobilise massivement pour soutenir la petite sœur serbe, et voilà que du coup, par réaction en chaîne, l'Allemagne et la France mobilisent. Quand les dirigeants autrichiens déclarent la guerre à la Serbie, ils ne se doutent absolument pas qu'ils déclenchent cette réaction en chaîne. Et pourtant, ces dirigeants autrichiens de l'époque n'étaient pas aussi hystériques, loin de là, que les Macron.
Mmh.
Alors quand on voit aujourd'hui l'hystérie et de Macron et d'une classe médiatique européenne et européo-américaine, quand on voit le climat d'inconscience qui anime une bonne partie des élites intellectuelles et politiques occidentales, on est aujourd'hui beaucoup plus exposé au risque de guerre mondiale que n'était l'Europe de 14.
Et puis avec cette arme nucléaire, cette auditrice, le clown dégénéré de l'Élysée veut vitrifier le peuple français, c'est Hitler du 21e siècle. Je remercie d'ailleurs Jean-Loup, car j'ai parlé un peu vite en disant qu'il n'y avait pas de bénévole ce matin dans ce libre journal. Jean-Loup est arrivé, il est présent et supplée Patrice et Sylvie que nous avons normalement le samedi matin. Donc on est content d'avoir Jean-Loup parmi nous, un bénévole. Nous avons besoin de vous, chers auditeurs. Un clown dégénéré qui veut vitrifier le peuple français. Il y a cet aspect nucléaire en plus qui doit être perçu.
Mais oui, et il y a d'ailleurs un axiome largement répandu qui dit qu'il ne peut pas y avoir de guerre mondiale parce que il y aurait un holocauste nucléaire.
C'est ça.
Moi, je m'inscris en faux contre cet axiome. La folie humaine est sans limite. Oui, je dirais l'inconscience aussi. Humaine est sans limite. Et de proche en proche, d'escalade en escalade, on peut arriver à un moment donné à une sorte d'apocalypse nucléaire.
Sorte de montée aux extrêmes.
Mais oui. Sans que les... Et je crois que c'est Marx qui avait dit « Les acteurs de l'histoire ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Et 14 en est l'exemple, je dirais, le plus abouti. Et d'aucuns ont pu comparer. Moi, je l'avais fait déjà dans mon livre « La Troisième Guerre mondiale », a commencé en 2002. Je disais qu'on pourrait avoir une Troisième Guerre mondiale avec un processus identique à celui de 1914, c'est-à-dire des jeux d'alliances qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui finalement conduisent à un moment donné à une déflagration générale.
C'est exactement ce que recherche Macron en Europe.
Oui.
C'est son discours de cette semaine.
Oui.
C'est puisque l'article 5 de l'OTAN n'est plus assuré, on a au sein même de l'Union européenne la possibilité de voir si un pays de l'Union européenne est attaqué, l'ensemble des autres pays lui venir en aide par tout moyen à sa disposition. C'est-à-dire, il généralise le principe qui a abouti à la guerre.
Exactement.
Voilà.
Et on voit bien que Macron joue à fond la carte de la guerre.
C'est bien ça. Je vous propose, Laurent, de faire une très courte pause avec un petit bobino et on revient tout de suite après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
J'espère bien, chers auditeurs, que vous appréciez cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde avec Jean-Loup, donc au standard. N'hésitez pas finalement aussi, si vous n'envoyez pas vos messages par courriel électronique, eh bien, à courtoisie@radiocourtoisie.fr, vous pouvez aussi téléphoner et le standard. Et maintenant, entre de bonnes mains, les mains de Jean-Loup. Voilà. On revient, et ben finalement, je pense qu'on va faire une causerie pendant une heure et demie. On va continuer, mais c'est un autre sujet. J'aimerais bien maintenant, après avoir longuement parlé de l'Ukraine avec vous, Laurent-Arthur Duplessis, parler un peu de ce pape Léon XIV, qui par rapport au pape François, eh bien, ne partage pas ses thèses sur l'immigration. C'est assez surprenant. Il est aussi beaucoup plus, j'ai envie de dire, diplomate par rapport aux traditionnalistes de l'Église catholique. Il a l'air de resituer un peu dans une sorte de neutralité bienveillante vis-à-vis de ceux qui étaient souvent dans le collimateur de son prédécesseur François. Et sur l'immigration, Léon XIV, là où on sait que François tensait souvent Trump, même s'il y a aussi des conflits entre Léon XIV et Trump, mais pas pour les mêmes raisons. François, n'hésitez pas à reprocher à Trump de construire ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, et en expliquant qu'un vrai chrétien, un bon chrétien devait faire des ponts et non pas des murs. Bon, ça, c'est très discutable quand on sait les hauts murs du Vatican. Mais le pape Léon XIV, lui, reconnaît le droit légitime des États à contrôler leurs frontières. Et donc, il replace, le pape américain, la question des migrants à sa source pragmatique. Il appelle les pays du Sud à la justice sociale et à la démocratie avec l'aide des pays du Nord. C'est un discours qui nous change de ce que l'on connaissait avec le pape François.
Et alors justement, on voit bien que ce pape a fait toute sa carrière sacerdotale au Pérou, dans une grande, grande proximité, notamment avec les Indiens du Pérou. Il y a beaucoup d'Indiens au Pérou.
Oui.
Et ce pape a été en symbiose avec les Indiens du Pérou. Il connaît donc bien, par le biais du Pérou, ces peuples latino-américains qui émigrent beaucoup aux États-Unis. Et tout en ayant eu cette immersion totale dans le peuple péruvien, cette symbiose avec le peuple péruvien, il a justement une position beaucoup plus nuancée que François, qui lui était d'origine argentine, et il y a quasiment pas d'Indiens en Argentine. Donc lui, l'Argentin peu familier des Indiens, il tensait avec brutalité les politiques anti-immigrationnistes ici et là, alors que le pape Léon, qui connaît parfaitement les Indiens, qui dans les débuts, et pas que dans les débuts, quand il était évêque encore, allait dans les montagnes péruviennes à dos de d'âne voir les villages indiens, et qui donc a passé, je dirais, toute sa carrière l'intimité spirituelle avec les Indiens. On sait que en Amérique latine, la foi chrétienne est très vivante, et notamment, elle est très vivante dans les villages indiens. Dans les couches modestes de la population indienne. Il y a une ferveur catholique intense. Et lui, qui a une si profonde amitié et sympathie pour ces peuples indiens, si catholiques, le voilà qui dit que, bon, effectivement, il faut poser des bornes à l'invasion migratoire. On voit bien que il sait de quoi il parle. Il sait bien que les débordements migratoires nuisent aux migrants eux-mêmes, dans la mesure où Et cette submersion migratoire crée le chaos. Et il sait bien que le chaos est destructeur et pour les migrants et pour les peuples d'accueil. Et en réalité, il a une vision beaucoup plus éclairée, sage et profonde de ce problème que l'avait François, qui au fond jugeait ex cathedra du haut de sa, on peut dire, de sa, de ses préjugés argentins, en quelque sorte. C'est extrêmement intéressant de voir ça, justement, les paradoxes du Papléon.
Alors le François, lui, on le sait, en plus, avait été primé à Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire qu'il était le il faisait beaucoup de politique, François, et il était le représentant de ces mondialistes, tendance sorossienne, je dirais, hein, tendance gauchiste.
Et alors que le pape Léon, ayant vécu dans l'intimité des peuples indiens du Pérou, semble en réalité beaucoup moins mondialiste.
Oui.
Il est en réalité beaucoup plus, apparemment, il semble beaucoup plus soucieux de préserver les identités locales. Et aussi, le peuple Léon, il connaît parfaitement l'histoire de l'Amérique latine. Et il sait très bien comment les États-Unis ont été les grands prédateurs de l'Amérique latine. Comment... dès la fin du 19e siècle et jusqu'à la guerre de 14 et ensuite dans l'entre-deux-guerres, les Américains, avec brutalité, écartaient ou même assassinaient les dirigeants latino-américains qui leur déplaisaient pour imposer à leur place des dirigeants à leur botte, notamment pour satisfaire aux appétits de telles sociétés producteurs de jus de fruits, de telles sociétés tournées vers l'extraction minière. Et donc, toute la politique étrangère américaine en Amérique latine à cette époque-là consistait à mettre en coupe réglée l'Amérique latine,
ouais,
au profit des grandes sociétés, des grandes banques américaines. D'ailleurs, un officier supérieur américain, dont le nom va peut-être me revenir, avait écrit, publié en 1935 un livre intitulé en américain « War is a racket », traduit en français « La guerre est un racket », où il disait que tout ce qu'on lui avait demandé de faire en tant que brillant officier américain, c'est-à-dire les opérations au Mexique, en Amérique centrale, etc., étaient toutes des opérations militaires destinées à imposer les intérêts du capitalisme américain en Amérique latine.
Alors, Laurent, pour continuer sur le pape et aller un petit peu au-delà, le pape est allé, ça a surpris d'ailleurs, à Monaco, il est allé ensuite en Algérie, il était en Afrique, dans ses premiers voyages. Macron, il a reçu Macron, Macron l'a invité, il avait reçu des rebuffades de François. On voyait que François, ce que représentait la chrétienté, pas le christianisme, la chrétienté, était voué aux gémonies, il administrait la disparition, le remplacement, en tout cas la disparition de la chrétienté, François. C'est moins le cas, pareillement, du pape Léon XIV. Léon XIV qui viendra peut-être en France, mais alors la France déchristianisée, la France qui détient probablement les pires ennemis du christianisme et du catholicisme, en particulier en la personne de l'ineffable Jean-Luc Mélenchon, qui rêve, lui, de cette nouvelle France, celle de Bagayoko à Saint-Denis, celle de la Courneuve, et qui va au-delà même de l'imaginable, il dit, Jean-Luc Mélenchon, ancien enfant de cœur, c'est amusant, qui considère que l'Occident a emprunté à l'islam l'art de bâtir les cathédrales. Écoutez-le, je vais vous citer Jean-Luc Mélenchon. C'était par exemple le 18 juin dernier, mais il en a parlé à d'autres moments. Il dit, écoutez bien, Laurent, s'il n'y avait pas eu Saladin, vous vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait. C'est lui qui vous a appris comment on faisait les vitraux et qui vous a appris les maths. Donc, ce que alors là où en effet je disais l'enfant de cœur Mélenchon, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. C'est même pas de dire des âneries pareilles. C'est le vous. Il vous a appris. Mais il est qui, Mélenchon? De quelle France il appartient? Le vous. Donc il n'est pas, c'est pas le nous. Il ne, Saladin ne lui a pas appris à lui. Il y a quelque chose de vraiment, je crois, extrêmement problématique chez Mélenchon. Vous en pensez quoi?
Moi, je crois qu'il joue la carte de la guerre civile.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, Mélenchon, il pense que il ne peut arriver au pouvoir que par la guerre civile.
Oui.
Et il allume, il essaye constamment d'allumer les banlieues dans ce sens. Mmh. Et on le dit très cultivé, je crois que c'est vrai. Quand il dit des inepties comme celle-là,
oui. Il sait très bien.
Il sait très bien que c'est faux. Il le sait parfaitement. Et donc, ça montre toute la démarche cynique de Mélenchon, qui n'a même pas l'excuse de l'ignorance et de l'inculture, parce qu'il n'est pas ignorant, il n'est pas inculte. Et ça montre que cet homme, qui, paraît-il, a une frustration du temps où il était un socialiste convenable, entre guillemets, parce qu'on ne lui aurait pas offert les postes et la carrière qu'il méritait. Alors, effectivement...
C'est vrai que c'est un lieu à une haute estime de lui-même.
Et oui. Et donc, ça l'a rendu... C'est peut-être ça qui l'a rendu très méchant.
Oui.
Car la frustration, on peut rendre méchant. Et en tout cas, il est animé d'une hystérie. Il est complètement hystérique. Et il n'y a qu'à le voir quand il fait ses discours. Il est parfaitement hystérique. Il est emporté par l'hystérie et il a envie sans doute de se venger. Effectivement, il y a un sentiment de vengeance. Et puis, il y a une ambition frénétique. Et quand il dit que Saladin nous a appris à faire des cathédrales, mais le contresens historique, évidemment, est énorme. Alors, hélas, le problème, c'est que les gens n'ont plus beaucoup de notions historiques.
Non.
Et donc, et Mélenchon sait très bien que quand...
On rappelle que Maître Gims, le fameux rappeur, trouvait intelligent d'expliquer que les pyramides étaient d'anciennes centrales électriques.
Oui. Alors, vous savez. Oui. Un livre remarquable a été publié il y a un peu plus de 10 ans, Aristote au Mont-Saint-Michel, de Guggenheim, qui était un professeur à l'école normale supérieure et un éminent historien. Et Guggenheim, dans son livre remarquable, qui lui a valu d'ailleurs un conseil de discipline universitaire et pratiquement une mise à l'écart, pour propos racistes, etc., alors qu'il n'y avait aucun racisme dans son livre. Hein, mais... Il expliquait que...
C'est lui, d'ailleurs, Sylvain Guggenheim, hein, qui, dans un article du Figaro, répond à Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, très bien. Très bien. Et Guggenheim montre très bien comment des circuits de transmission des textes gréco-latins se sont développés à partir de Byzance et ont abouti notamment aux ateliers de traduction du Mont-Saint-Michel. Et il montre que la transmission des textes gréco-latins ne s'est pas faite uniquement par l'Espagne du temps de la période musulmane, où il y avait effectivement des ateliers de traduction à Tolède, notamment, qui étaient renommés. Mais ce n'était pas la seule voie. Il y avait aussi...
Et l'Empire byzantin, enfin ce que Byzance avait à ce qui a permis cette première renaissance, d'ailleurs.
Et oui. Et en matière d'architecture, Alors, juste pour finir sur Guggenheim, il montre aussi une chose, c'est que certes, Aristote a pu influencer certains penseurs musulmans. Néanmoins, à cause notamment des interdits liés à la théologie musulmane, l'aristotélicisme a été utilisé d'une manière extrêmement amputée, extrêmement fragmentée par ces penseurs musulmans, notamment parce qu'il leur était interdit de remettre en cause l'unicité du politique et du religieux. Mmh. Et donc, du même coup, Guggenheim développe dans son livre l'idée que les penseurs musulmans étaient confinés à faire un peu de la dentelle analytique, à se limiter à des exégèses parcellaires et ne pouvaient pas entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les rapports de la raison et de la foi, comme a pu le faire saint Thomas d'Aquin, justement, dans le Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin, avec des prémices, avec saint Augustin, 5e siècle, etc., saint Thomas d'Aquin, son socle intellectuel qui a été fondamental, c'est d'articuler la foi et la raison. Ce que les grands penseurs musulmans ont été souvent empêchés de faire par le fait de la contrainte que faisaient peser les oulémas, les docteurs de la loi, sur leur travail. Donc, du même coup, l'aristotélicisme n'a pu influencer la vie intellectuelle musulmane que d'une manière relativement parcellaire. Alors que l'aristotélicisme a été fondateur du thomisme, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, qui a irrigué l'Église catholique jusqu'à Vatican II, et même au-delà, puisque ça n'a jamais été véritablement remis en cause. Et on voit bien comment l'œuvre de Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, a pu déranger le politiquement correct, puisque nous devons tout aux musulmans. Et sans eux, nous serions encore en train de vivre à l'âge de pierre.
Alors cette barbarie qui est au cœur même des pays d'Occident et de la France, cette barbarie qu'incarne Mélenchon, LFI, cette nouvelle France de Mélenchon, eh bien, alors énormément de questions qui m'arrivent maintenant d'auditeurs. On va regarder ça rapidement, mais j'ai encore deux thèmes, chers auditeurs. Jean-Loup, merci en tous les cas pour l'ensemble de cette flopée de questions qui arrivent maintenant. Et ça va, il nous reste 25 minutes. Deux thèmes que je voulais aborder encore dans cette revue de presse qui aura fait finalement l'émission. Et on va après répondre aux auditeurs. Donc je vais vous demander d'être non pas bref, mais en tout cas suffisamment rapide sur ces deux derniers thèmes. Cette barbarie, eh bien, on va aller sur le thème principal de cette émission. Elle gagne aussi, dans l'incarnation de l'Occident au Moyen et Proche-Orient avec l'État d'Israël. L'État d'Israël qui commet des crimes au Liban, qui a commis des crimes à Gaza, génocidaires, en tout cas considérés comme tels même par le tribunal international. Et au Liban, Liban martyrisé, Liban qui compte ses morts et des journalistes, encore une fois. C'est-à-dire que cet État d'Israël cherche à éliminer les témoins de ses actes, de ses agissements. Nous avons très rapidement expliqué que les soldats français de la FINUL, et pas seulement français, avaient été ciblés par le Hezbollah, même si le Hezbollah a nié toute responsabilité, mais en tout cas, ce que l'on a pu voir d'accrochage entre Tsahal et l'armée israélienne et la FINUL, qui ont été nombreux, et on constate, on l'a vu, il n'y a jamais eu autant de morts journalistes que durant la guerre à Gaza, et là, on déplore Amal Khalil, une des meilleures journalistes libanaises, tuée par l'armée israélienne. Les Israéliens tuent, ils tuent les journalistes, ils les tuent à Gaza, ils les tuent au Liban. Colère aux obsèques de cette journaliste, Amal, hein, Khalil Amal, Amal Khalil, portait la voix du Sud et des sacrifices endurés par cette région. Aucune excuse venant d'Israël qui eh bien, sème cette mort qui touche en plus, ce sont des crimes de guerre, des journalistes assassinés. Ils sont allés avec des drones l'attaquer, elle et une de ses collègues. Ils l'ont poursuivi avec les drones. Ils l'ont raté sur une première frappe. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien d'accidentel. Il y a une volonté d'éliminer une journaliste libanaise. Et c'est l'armée, soi-disant la plus morale du monde, l'armée de Tsahal, qui a commis ce crime. Laurent.
Oui, oui. Et il semblerait même que ce ne soit pas la première fois hein, que des journalistes soient victimes de tirs israéliens au Liban. Hein.
Bien sûr.
Et on voit que ça s'inscrit d'ailleurs dans une politique générale conduite par Netanyahou, de provocation et de radicalisme total. On voit que Netanyahou est profondément dérangé par les éventuelles perspectives de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Et on voit que beaucoup d'Iraniens, de dirigeants iraniens qui auraient pu être des intermédiaires pour une négociation ont été éliminés physiquement. Et c'est au point que on voit qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent les rênes en Iran, ce sont les plus radicaux. Ce sont les Pasdaran, et parmi les Pasdaran, les plus radicaux des Pasdaran. Et on voit que actuellement, il y a un durcissement donc des dirigeants iraniens nouveaux qui compromet très très largement la réussite éventuelle de négociations, puisque ces chefs Pasdaran qui donc ont l'âge d'avoir fait la guerre Iran-Irak de 80 à 88, qui a été une guerre épouvantablement dure, où l'Iran a eu 1 million de morts et l'Irak à peu près pareil. Ces hommes-là sont prêts au sacrifice suprême. Ils sont prêts à mourir. Et ils préfèrent de toute façon la mort à la soumission. Mmh. Alors, évidemment, du temps où Ali Khamenei était vivant, et où les mollahs avaient le pouvoir, on pouvait penser que des négociations pouvaient être menées à bien. Et ne serait-ce que parce qu'Ali Khamenei, malgré tout, ait coordonné les forces variées, les institutions variées qui composent le paysage politique iranien, qui est un paysage très complexe. Ce n'est pas du tout l'Irak de Saddam Hussein, par exemple. C'est une architecture constitutionnelle très élaborée, très complexe, avec des colorations, des tendances assez différentes. Et le rôle du guide suprême était, en quelque sorte, d'être notamment le coordinateur de ces différentes sources de pouvoir, de ces différents centres de pouvoir. Actuellement, tout ça s'est beaucoup simplifié, dans le sens que maintenant, c'est un gouvernement de Pasdaran qui ont une main de fer et qui ont une vision beaucoup plus radicale des choses. Ce qui diminue beaucoup les chances d'aboutissement d'une négociation. Et c'est pour ça que la situation est extrêmement inquiétante, parce que malgré les efforts de la Chine à travers le Pakistan, il y a un axe Chine-Pakistan. Le Pakistan est certes, par certains côtés, allié des Américains, mais par d'autres, de la Chine. Il est sur les deux versants, si on peut dire. Mais il est clair que les négociations Islamabad sont fortement encouragées et télécommandées, si on peut dire, par la Chine.
Mm-hmm.
Et on voit bien à quel point Islamabad est constamment disponible pour intermédier, pour être, servir d'intermédiaire à ces négociations. Mais les chances d'aboutir sont assez minces. Trump cherche le moyen de sortir de ce bourbier qu'il a créé lui-même par son impulsivité et son esprit simpliste, et manipulé par un Netanyahou qui est venu dans la salle, la war room en anglais, qu'on peut traduire en français par la salle
de guerre.
De guerre, oui, la salle de guerre. Et Netanyahou est venu expliquer à Trump que quand on aurait tué tous les dirigeants, le régime s'écroulerait. En plus, avec le couplage des bombardements massifs, le régime ne pouvait que s'écrouler. Alors, peut-être que Netanyahou lui-même y croyait, d'ailleurs. Hein, il est possible hein, qu'il ait... En tout cas, lui, de toute façon, il veut la guerre. Hein, bon. Et Trump n'a pas écouté Radcliffe, le patron de la CIA, qui a dit « c'est du bullshit », c'est-à-dire « c'est de la merde ». Il n'a pas écouté...
Son chef d'état-major.
Son chef d'état-major, qui est assez faillot, lui, quand
oui,
même. Hein.
Et qui pourtant, là, semble-t-il...
Mais quand même a manifesté une certaine tiédeur.
Ouais.
Enfin, il est bien faillot, lui. Hein. Et il n'a pas écouté même Marc Rubio, qui pourtant... Et lui,
considéré comme un faucon néoconservateur.
Et oui. Et même lui, Rubio, était contre l'attaque de l'Iran. Même lui. Et le gorille dans sa cabane.
Donc le gorille dans la cabane, c'est Trump. Hein. C'est
Trump.
Rappelle pour ceux qui n'écoutent pas le vendredi en plateau à 19h sur GPTV les interventions de Laurent Arthur Duplessis. Eh bien, voilà, il est ainsi nommé par notre ami Laurent, le gorille dans la cabane.
Oui, parce
merci.
Que je l'ai comparé très vite à un gorille qui est dans une cabane et puis qui secoue la cabane frénétiquement. Et sans se rendre compte qu'il met la cabane en péril de s'effondrer. Et le gorille n'a pas écouté les conseillers. Et il s'est rangé à la vie de Netanyahou en s'imaginant qu'effectivement, il a laissé un nom dans l'histoire parce que maintenant, il semblerait qu'il ait envie d'avoir son portrait sculpté sur le mont Rushmore,
ouais.
Aux côtés du portrait des pères fondateurs. Et donc, effectivement, s'il a été le tombeur du régime, de la dictature iranienne, et s'il a été le sauveur de la démocratie en Iran, le restaurateur de la démocratie en Iran, ou l'instaurateur de la démocratie en Iran, bon, effectivement, il laisserait son nom dans l'histoire. Alors, tout ça lui est monté à la tête. Il s'est enivré de ses rêves, il s'est enivré de ses fantasmes, et il s'est cru malin de jeter les États-Unis dans ce piège. Il a compris maintenant que c'est un piège, et il essaye d'en sortir. Alors, effectivement, pour en sortir, il faudra qu'il fasse d'énormes concessions aux Iraniens, énormes. Pourra-t-il les faire, ces concessions ?
Oui.
Il cherche par tous les moyens un scénario de substitution, puisque cet homme de télévision ne vit que par scénario, par opération de communication. Donc, on voit bien qu'il fait monter la thématique de Cuba pour essayer de distraire l'esprit des magas de la déconfiture américaine en Iran, éventuelle, déjà établie sur le plan militaire, et peut-être bientôt avéré sur le plan diplomatique s'il y a un accord extrêmement humiliant pour les États-Unis, eh bien, il prépare une opération de distraction de l'esprit des magas par un coup de main sur Cuba, quelque chose de ce genre-là. Et on voit bien qu'il est complètement perdu, Macron. Il est,
Trump.
Il est complètement perdu. Il est déboussolé. Il se rend compte de l'énormité de son erreur. Il se rend compte à quel point il s'est fourré dans un piège inextricable. Et il cherche désespérément à en sortir. Alors il reconduit la trêve. Là, il l'a reconduite pour 3 semaines. Il envoie Kouchner et Wilcox, là, les deux pieds nickelés de la diplomatie américaine, qui ont beaucoup plus d'expertise dans les contrats immobiliers que dans la diplomatie. Ces deux-là ne sont pas du tout pris au sérieux par les Iraniens, d'autant que...
D'autant qu'ils seraient, eux, parmi ceux, par contre, qui l'auraient poussé à écouter Netanyahou.
Oui.
En particulier,
oui.
Jared Kushner, on n'est pas surpris, mais même Steve Witkoff.
Et même Wilcox, qui de toute façon, lui, ne veut que plaire à son maître, à Trump. Il sentait l'humeur de son maître et il est allé dans le même sens.
L'humeur du maître étant grisée, bien sûr, par ce qui s'était passé au Nicaragua.
Et voilà,
au Venezuela.
Et ça a joué un rôle énorme, le Venezuela. Parce qu'au Venezuela, effectivement...
Il marchait sur l'eau, Trump, après ça.
Hein. Oui,
et d'ailleurs, il l'a dit encore dernièrement, il faut dire qu'il débloque quand même grave. Il a expliqué, moi, 45 minutes pour gagner le Venezuela. Si j'avais été président à l'époque de la guerre du Vietnam, je l'aurais gagné en un temps record.
Et je crois que
ça va jusque-là. Hein.
Je crois qu'il croit ce qu'il dit. En
mais
plus.
C'est probable.
Et alors, en plus, le Venezuela, le Pentagone était plutôt contre, je crois. Mmh. Les experts militaires disaient, attention... Donc, là, il a pris la grosse tête, complètement. Mmh, là,
c'est
la gorille s'est déchirée.
Il s'est grisé.
Complètement. Et puis, finalement...
Et donc, les flatteurs ont su aller dans le sens des griseries,
du maître. Et d'autant qu'il s'est amouraché de l'appareil militaire américain.
Mmh.
Finalement, il s'est rendu compte que cet extraordinaire appareil militaire américain lui donnait un pouvoir démiurgique, gigantesque, et faisait de lui un Jupiter de l'humanité. La puissance militaire américaine l'a grisé. Alors du même coup, eh bien, il a foncé tête baissée dans le piège, et maintenant il essaie désespérément d'en sortir. Moi, ce que je crains dans l'histoire, c'est que tout ça traîne, et que pendant que tout ça traîne, il y a une victime, c'est l'économie mondiale.
Alors justement, si le blocage d'Hormuz perdure encore 2 ou 3 mois, la France entrera dans une ère de pénurie énergétique, prévient
oui.
Patrick Pouyanné, patron de Total
oui.
Énergie.
Oui.
On termine cette revue de presse. Vous avez 2 minutes pour répondre, pas plus là-dessus, parce qu'après, place aux questions des auditeurs.
Oui, oui. Eh bien oui,
mais
la France et l'Europe et l'Occident et le monde... C'est extrêmement grave ce qui se passe. Il semblerait que peu de gens aient compris la gravité de ce qui se passe. On risque d'avoir une crise économique et financière mondiale de l'intensité de 1929, voire pire, puisque il y a aujourd'hui toutes sortes de mécanismes d'étanchéité qui existaient en 1929 et qui ont disparu. Aujourd'hui, une crise financière fait le tour du monde en 24 heures. Avec notamment les ordres automatiques des ordinateurs, les ordres de vente automatiques des ordinateurs quand la valeur arrive à un certain niveau, etc. Et d'autre part, avec la liberté d'échange, il n'y a plus du tout de cloison étanche comme il pouvait y en avoir en 1929. Donc, on a une épée de Damoclès, c'est une crise économique et financière majeure. Et si le blocage du détroit d'Hormuz, qui n'est pas absolu mais qui est suffisant pour mettre en péril l'économie mondiale, se poursuit pendant 1 mois ou 2 mois, le monde risque d'être plongé dans une crise économique et financière gravissime, assortie de famine, notamment dans les pays du BRICS, parce que 35% des engrais sont bloqués dans le golfe Persique, et l'humanité risque d'être confrontée à une tragédie mondiale.
Merci Laurent. Arthur Duplessis, vous êtes dans le livre journal de Géopolitique Profonde. Nous allons passer maintenant, chers auditeurs, à vos questions. Un appel de Bruno Gollnisch. Merci pour cette émission. Je conforte le propos de M. Duplessis relatif au déclenchement de la Première Guerre mondiale. J'ai hérité de mon arrière-grand-père, eh bien, ancien ministre des Affaires étrangères, Émile Florent, copie de la correspondance diplomatique de juillet 14. Aucun diplomate, aucun responsable politique ne voulait la guerre et tous y ont été conduits. La dernière lettre de Guillaume II à Nicolas II, son cher cousin Niki, est particulièrement pathétique. Il lui explique que cette guerre autrichienne est nécessaire au maintien du principe dynastique et à la stabilité de leur trône. On sait ce qu'il en est advenu.
Oui.
Ça pour les dynasties. Oui. C'est vrai que 14 a été particulièrement fatal. Emmanuel Macron, nous dit cet auditeur, a été diagnostiqué deux fois par un expert psychiatre au barreau de Rome. Il est très inquiétant de le voir vouloir faire la guerre aux Russes. Je tiens de sources israéliennes que le niveau moins 6 de la base israélienne de Dimona, hein, la fameuse base nucléaire, s'appelle Macron. Alors, en effet, on pense à notre cher psychiatre Zegatori, qui non seulement en 2017 avait commis une première intervention en disant « Attention, il est très dangereux, Macron ». Et en tout cas, et en 2022, il avait dit « Il n'est pas seulement dangereux pour la France, Emmanuel Macron, il est dangereux pour nous tous ». Moi-même, italien, il est dangereux pour moi, il est dangereux pour les Européens. C'est dire, c'est Zegatori qui expliquait ça. Des auditeurs, alors un auditeur, ça, tout ça, c'est des questions de standard. C'est bien, vous avez aussi fait travailler Jean-Loup, merveilleux. À propos de Léon XIV, le pape a pris parti pour le camp ukrainien en recevant Zelensky, il aurait dû rester neutre.
Oui, là, d'accord. Oui.
À propos des deux soldats français, nous dit cet autre auditeur, tués au Liban, je tiens. Alors c'est un peu ce que j'avais suggéré, de sources militaires françaises qu'ils ont été tués par l'armée israélienne. Le Hezbollah n'était pas là à ce moment-là, à cet endroit-là.
Et alors d'ailleurs, il y a un détail qui pourrait aller dans ce sens,
oui.
C'est que les assaillants ont crié pendant l'assaut « Hezbollah, Hezbollah ».
Bah tiens donc, on signe. Il n'y avait pas non plus la carte d'identité, vous savez, quand on retrouve les fameuses cartes d'identité des terroristes avec les tours jumelles, avec Charlie Hebdo. Vous savez, à chaque fois, ils oublient, ils ont une tendance à bien s'identifier. Hein, est-ce qu'on a besoin de le répéter plus fort ? C'est vrai que ça sent l'opération sous faux drapeau. Et là, encore une fois, le gouvernement français, gouvernement de Larbin, avalise le fait que ce soit nécessairement le Hezbollah avant même l'enquête. C'est là, on l'a su dans l'heure que c'était le Hezbollah. On ne sait toujours pas qui a détruit le Nord Stream. On ne sait toujours pas ce qui a fait brûler Notre-Dame, si ce n'est un mégot. Mais par contre, quand la propagande s'enchaîne, on sait immédiatement qui est responsable. Et là, c'est le Hezbollah. Voilà. Un auditeur, Lubris, merci messieurs de vos analyses, Lubris de nos gouvernants n'a pas de limite. Macron, qui n'a plus de pouvoir populaire, a encore le pouvoir nucléaire et Trump, désavoué par son camp, fantasme encore. Il semble qu'en pleine réunion dans la Maison Blanche, Trump aurait exigé d'activer les codes nucléaires pour frapper l'Iran. Seul le général Dan Kane, chef d'état-major, se serait levé pour lui dire non. Question, est-ce qu'un de nos généraux aurait encore cette lucidité ? Est-ce qu'un Mandon, un colonel Soja, aurait cette lucidité ? On peut se poser la question.
Oui, et c'est vrai que Dan Quayle, même timidement, mais a montré qu'il était pas chaud. Hein, oui.
Je vous invite à lire du Rudolf Steiner, La chute des esprits des ténèbres, qui permet de comprendre les raisons des intentions de guerre. Et cette fameuse chute des esprits des ténèbres au XIXe siècle que Rudolf Steiner signifie dans certains de ses ouvrages. Je vois très bien, là on a affaire à quelqu'un qui connaît bien Rudolf Steiner. Mélenchon est espagnol d'origine, les musulmans ont colonisé la péninsule ibérique pendant 8 siècles, se dit mis à irriter. Ce statut d'Imi. Bonjour messieurs, j'ai lu comme vous le livre de Guggenheim, très intéressant, devenu collector, puisqu'il n'est plus réédité. Mélenchon confond musulmans et arabophones, or le traducteur de la poétique d'Aristote, par exemple, s'appelle Aboul Bachar et était chrétien. Tout comme Ishaq Unaya, chrétien qui a traduit le reste de l'œuvre. À ce compte-là, Spinoza serait catholique parce que ses traités sont rédigés en latin. Belle émission. Un auditeur, bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Et Trump doit aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est la chute du régime iranien par une intervention terrestre américaine massive. Sinon, les dindons, c'est nous les Français qui allons payer le prix fort par l'augmentation des prix de la nourriture. Les Américains avaient gagné la guerre de Vietnam si les Américains n'avaient pas signé un traité de paix avec le Vietnam du Nord en 1974, non respecté par le Viet Minh. Bien courtoisement, bah, on rappelle qu'on peut gagner militairement une guerre et la perdre sur le plan stratégique. Or, ce qu'on voit, c'est cette défaite stratégique aujourd'hui des Américains.
Complètement. D'ailleurs, les Soviétiques avaient inventé le concept d'art opérationnel. C'est-à-dire qu'ils avaient montré que des victoires tactiques pouvaient mener à une défaite stratégique. Les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient eu beaucoup de victoires tactiques sur les Russes, mais ils ont eu une défaite stratégique. Et là, on a la même chose avec les États-Unis. Ils ont des victoires tactiques, mais ils sont en pleine défaite stratégique.
C'est ça, exactement. Il nous reste, allez, 1 minute 30, Laurent, pour déguster le quatrain de Michel Dumas, qui est arrivé, bien sûr. Qu'il ne s'inquiète pas, Michel Dumas, je gardais pour la bonne bouche il est excellent, il est savoureux, le quatrain de Michel Dumas, comme souvent d'ailleurs, comme toujours, le samedi. Je vous le livre tel quel. Taco, poule mouillée, as du poker menteur, malgré elle plombée, vol en apesanteur, bien au-dessus des cartes, fol archange enchanteur, plus fort que Jupiter, des vraies clés détenteurs. Magnifique, magnifique quatrain de Michel Dumas. Il reste, allez, 45 secondes dans cette émission, le temps de vous remercier pour cette magnifique émission, mon cher Laurent. Souhaiter à Mike Borowski une bonne émission, une bonne controverse. Je suis content de le voir et de pouvoir de visu. C'était le plaisir d'être à nouveau dans le studio ce matin. Remercier encore Jean-Loup, remercier Virginie. Et vous dire, eh bien oui, cette émission s'achève. Une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon dimanche en perspective. C'est la Saint-Marc aujourd'hui. C'était la fête des Saint-Marc, vous savez.
Eh bien, voilà. Bonne fête.
Aux Marques.
Ou aux Marques.
Tout à fait. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.
Vous venez d'entendre Géopolitique profonde, dirigée par Nicolas Stocker, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, samedi 25 avril 2026, de 9h à 10h30, et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.